Le fantôme de l'opéra, de Gaston Leroux. Adaptation Laurent Martin, seconde et dernière partie.
D'abord amusé par les rumeurs à propos d'un fantôme, Firmin Richard, le nouveau directeur de l'Opéra de Paris, ne tarde pas à déchanter. Un machiniste est retrouvé pendu. Un cheval disparaît. Et puis, le fantôme exige qu'une jeune chanteuse, Christine Daae, remplace la grande Carlotta dans le rôle de Marguerite, faute de quoi il arriverait un malheur. Richard ne cède pas au chantage et le grand lustre s'effondre sur le public en pleine représentation. Amoureux de Christine Daae, le jeune vicomte Raoul de Chagny souffre du comportement étrange de la jeune fille, qui finit par lui avouer qu'elle est sous l'emprise de l'ange de la musique à qui elle doit tout son talent. Au bal masqué de l'opéra, le vicomte comprend que celui qu'il croit être son rival est présent, et Christine s'enfuit. Raoul la suit à distance, et tandis que s'élève un chant sublime, il entend la jeune fille murmurer « Pauvre Éric ». Raoul propose à Christine de s'enfuir avec lui, loin de la puissance maléfique du prince de la musique. Elle y consent, à condition de pouvoir chanter une dernière fois sur scène pour Éric. Mais qui est cet Éric? Quel lien avec le fantôme?
Rémi.
Monsieur le directeur.
Cette enveloppe, est-ce vous qui l'avez mise sur mon bureau?
Non, monsieur le directeur.
Comment a-t-elle pu y arriver alors? Le bureau est fermé à clé.
Je ne sais pas, monsieur le directeur. C'est une enveloppe du fantôme?
Exactement. Il m'ordonne de glisser 20 billets de 1000 francs dans une enveloppe, de la cacheter et de la remettre à madame Giry qui fera le nécessaire. Son salaire mensuel.
Vous allez obtempérer?
Évidemment, mais uniquement dans l'espoir de mettre la main sur ce mystérieux maître chanteur. Et maintenant, faites entrer la mère Giry.
Madame Giry, venez par ici. Elle arrive.
Bien, bien. Cette affaire est de plus en plus étrange. J'en viens presque à regretter d'être devenu le directeur de l'opéra.
Monsieur Poligny, vous avez averti.
Ne me parlez pas de Monsieur Poligny.
Oui.
Madame Giry, j'aurais une petite question à vous poser.
Faites, monsieur le directeur. Mme Giry est là pour vous répondre.
Vous êtes toujours bien avec le fantôme?
On ne peut mieux, monsieur le directeur, on ne peut mieux.
Vous m'en voyez enchanté. Vous allez me dire comment il s'appelle?
Qui donc?
Celui dont vous êtes la complice, Madame Giry.
Je suis la complice du fantôme? Moi? Mais la complice de quoi?
Combien vous donne-t-il pour lui porter cette enveloppe?
10 francs.
Ce n'est pas cher.
Pourquoi donc?
Je vous dirai cela tout à l'heure. En ce moment, je voudrais savoir pour quelle raison extraordinaire vous vous êtes donné corps et âme à ce fantôme-là plutôt qu'à un autre. Ce n'est pas pour 10 francs qu'on peut avoir l'amitié et le dévouement de Madame Giry.
Ça, c'est vrai. Et ma foi, cette raison-là, je peux vous la dire, monsieur le directeur. Certainement, il n'y a pas de déshonneur à ça.
Mais je n'en doute pas, Madame Giry.
Et ben voilà. Le fantôme m'a annoncé par un message écrit en lettres rouges qu'en 1885, Meg Giry, ma fille, serait impératrice.
Oh.
Ah, monsieur le directeur, ceci était signé le fantôme de l'opéra. Ben, j'avais déjà entendu parler du fantôme, mais j'y croyais qu'à moitié. Du jour où il m'a annoncé que ma petite fille, la chair de ma chair, le fruit de mes entrailles, serait impératrice, ah, j'y ai cru tout à fait.
Vous ne l'avez jamais vu. Il vous parle et vous croyez tout ce qu'il vous dit.
Ah oui, c'est lui qui a fait passer ma petite Meg coryphée. J'avais dit au fantôme, pour qu'elle soit impératrice en 1885, vous n'avez pas de temps à perdre. Faut qu'elle soit coryphée tout de suite. Il m'a répondu, c'est entendu. Et il n'a eu qu'à moi dire à M. Poligny, c'était fait.
Donc, M. Poligny l'a vu.
Ah, pas plus quoi, mais il l'a entendu. Tout ce que le fantôme demandait à M. Poligny, M. Poligny l'accordait. Oh, M. Poligny n'avait rien à refuser au fantôme.
Vous entendez, Rémi? Poligny n'avait rien à refuser au fantôme.
Oui, j'entends bien. Monsieur Poligny est un ami du fantôme.
Et comme Madame Giry est une amie de Monsieur Poligny, nous y voilà bien. Mais Monsieur Poligny ne me préoccupe pas, moi. La seule personne dont le sort m'intéresse vraiment, je ne le dissimule point, c'est vous, Madame Giry. Vous savez ce qu'il y a dans ces enveloppes ?
Mon Dieu, non, je les pose dans la loge et c'est fini.
Eh bien, regardez.
Des billets de 1 000 francs ?
Oui, Madame Giry, des billets de 1 000 francs. Et vous le saviez bien.
À moi, monsieur le directeur, à moi, je vous jure.
Ne jurez pas, Madame Giry.
Ah, je vous jure.
Madame Giry, prenez l'enveloppe et agissez comme d'ordinaire. Ce soir, vous la déposerez dans la loge numéro 5.
Bien, monsieur le directeur.
Et nous verrons ensuite ce qu'il se passe.
Bien, monsieur le directeur.
Je ne vous retiens pas, mais je vous ai à l'œil. C'est très fort de la part du fantôme. Il s'est acheté une complice pour pas cher. 10 francs et une promesse folle. Mais ce soir, je surveillerai personnellement les entrées et sorties de la loge numéro 5. Et j'aurai le dernier mot.
Que fais-tu, Raoul ?
Ma valise.
Tu mets un pistolet dans ta valise ?
Avec Eric, on ne sait jamais.
Qui est Eric ?
C'est mon rival. Ce soir, j'enlèverai Christine Daae. Je dois la sauver du fantôme. Sans moi, il la retiendra prisonnière à jamais dans les entrailles de l'opéra.
Tu ne feras pas une pareille bêtise. Cette petite t'a tourné la tête avec cette histoire.
Je n'ai pas le choix.
Tu es un chenille. Tu as toujours le choix.
Vraiment ? Je ne crois pas.
C'est une chanteuse. On n'enlève pas les chanteuses.
Je suis bien décidé à le faire. J'ai passé la journée à mes préparatifs. Les chevaux, la voiture, le cocher, les provisions, les bagages, l'argent nécessaire, l'itinéraire.
Moi, je saurais bien t'en empêcher. Mademoiselle Daae, où est Mademoiselle Daae ? Rideau ! Baissez le rideau !
Le fantôme, c'est le fantôme qui a fait le coup !
Quelle histoire !
Monsieur l'administrateur...
Mais faites une annonce au public, faites quelque chose !
Oui, oui, bien sûr.
Mesdames et messieurs, veuillez nous excuser pour cette interruption de représentation tout à fait exceptionnelle. Un événement inouï et qui nous laisse dans une profonde inquiétude vient de se produire. Notre camarade Christine Daae a disparu sous nos yeux sans que l'on puisse savoir comment. Nous vous invitons donc à quitter la salle, au moins le temps que nous commencions les recherches. Merci à vous.
Elle n'est pas dans sa loge. Elle
n'est nulle part. Même on n'enlève pas une chanteuse en pleine scène tous les jours. Il faut prévenir la direction, il faut prévenir la police, j'aimerais chercher le commissaire Mifroy. Nous aviserons quand il sera là.
Il faut descendre tout de suite au jeu d'orgue, on doit parler au chef éclairagiste.
Pas avant l'arrivée du commissaire.
Il faut bien qu'on demande à Mauclair comment l'obscurité s'est faite tout à coup sur scène.
Allons plutôt en parler au directeur.
C'est encore un coup du fantôme.
Et dire qu'il va falloir rembourser tout ce monde.
Pardon, messieurs.
Pourriez-vous me dire où est Christine Daae ?
Vicomte, je crois que cette affaire regarde la police.
Je crois qu'elle me regarde aussi.
Poussez-vous, laissez-moi passer.
Pardon.
Monsieur Richard, êtes-vous là? Je suis avec le commissaire Mifroy.
Au nom de la loi, ouvrez!
Je ne peux pas! Je suis enfermé! J'ai perdu la clé!
J'en ai un double! Allez-y, Rémi.
Ah, enfin! Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'allais me rendre à la loge numéro 5 pour surveiller une certaine enveloppe quand je me suis retrouvé enfermé.
Christine Daae n'est pas ici?
Christine Daae? Non. Pourquoi me demandez-vous cela, monsieur le commissaire?
Parce qu'il faut qu'on la retrouve, monsieur le directeur de l'Académie nationale de musique.
Elle a donc disparu?
En pleine représentation.
En pleine représentation? Oh, mais c'est extraordinaire! Décidément, il y a de quoi donner sa démission. Alors, elle a disparu en pleine représentation.
Oui, à l'acte de la prison, dans le moment où elle invoquait l'aide du ciel. Mais je doute qu'elle ait été enlevée par les anges.
Et moi, j'en suis sûr.
Vous êtes sûr de quoi, monsieur de Chagny?
Que Christine Daae a été enlevée par un ange. Et je pourrai vous dire son nom et où il habite quand nous serons seuls.
Ah. S'il vous plaît, messieurs, dames, je vous prie de quitter le bureau. Allô, allô. Nous vous écoutons, monsieur de Chagny.
Monsieur le commissaire, il s'appelle Eric, il habite l'opéra et c'est l'ange de la musique.
L'ange de la musique. Voilà qui est fort curieux, l'ange de la musique.
Ces messieurs ont bien entendu parler du fantôme de l'opéra. Eh bien, je puis leur affirmer que le fantôme de l'opéra et l'ange de la musique, c'est la même chose. Et son vrai nom est Eric.
Monsieur le directeur, il paraît que vous connaissez le fantôme. Avez-vous cet ange-là chez vous?
Non, monsieur le commissaire, je ne le connais pas. Mais je voudrais bien le connaître, car pas plus tard que ce soir, il m'a volé 20 000 francs.
Un fantôme qui, le même soir, enlève une chanteuse et vole 20 000 francs est un fantôme bien occupé. Si vous le voulez bien, nous allons serrer les questions. La chanteuse d'abord, les 20 000 francs ensuite. Voyons, monsieur de Chagny, tâchons de parler sérieusement. Vous croyez que mademoiselle Christine Daae a été enlevée par un individu nommé Eric? Vous le connaissez donc, cet individu? Vous l'avez vu?
Oui, monsieur le commissaire.
Où cela?
Dans un cimetière.
Évidemment. C'est ordinairement là que l'on rencontre les fantômes. Et que faisiez-vous dans ce cimetière?
Monsieur, je me rends très bien compte de la bizarrerie de mes réponses et de l'effet qu'elles produisent sur vous. Mais je vous supplie de croire que j'ai toute ma raison. Il y va du salut de la personne qui m'est la plus chère au monde, avec mon frère bien-aimé Philippe. Je vais vous dire, monsieur le commissaire, tout ce que je sais sur le fantôme de l'opéra. Hélas, monsieur le commissaire, je ne sais pas grand-chose.
Dites toujours.
Monsieur le commissaire, un agent de la sûreté vous demande.
Oh. Bien, je reviens, messieurs.
Monsieur de Chagny, allez-vous me dire quelque chose d'intéressant sur ce fantôme? Sur ce mystificateur?
Je ne sais pas, il vaut mieux attendre le commissaire, non?
Sans doute, mais je m'inquiète pour mes 20 000 francs. Je pensais le surprendre et je me suis fait avoir.
Moi, je m'inquiète pour Christine.
Bien sûr, bien sûr.
Messieurs, c'est assez parlé du fantôme. Nous allons parler un peu de vous, si vous n'y voyez aucun inconvénient, monsieur de Chagny.
Oui.
Vous deviez partir ce soir avec mademoiselle Christine Daae. Après la représentation.
Oui, monsieur le commissaire.
Toutes vos dispositions étaient prises pour cela.
Oui, monsieur le commissaire, une voiture devait nous emporter tous les deux.
Et cependant, votre voiture est toujours là, attendant vos ordres, du côté de la rotonde, n'est-ce pas?
Oui, monsieur le commissaire.
Saviez-vous qu'il y avait à côté de la vôtre une autre voiture?
Je n'y ai pas prêté la moindre attention.
C'était celle de votre frère, monsieur le comte de Chagny.
C'est possible.
Eh bien, cette voiture ne s'y trouve plus.
Ceci n'a rien à voir, monsieur le commissaire.
Effectivement. Et quant
s'il vous plaît, messieurs, votre frère n'était-il pas opposé à votre départ avec mademoiselle Daae?
Ceci ne saurait regarder que la famille.
Vous m'avez répondu. Il y était opposé. Eh bien, monsieur de Chagny, permettez-moi de vous apprendre que votre frère a été plus prompt que vous. C'est lui qui a enlevé Christine Daae.
Oh, ce n'est pas possible. Vous êtes sûr de cela?
Aussitôt après la disparition de l'artiste, qui a été organisée avec des complicités qui nous resteront à établir. Il s'est jeté dans sa voiture et s'est livré à une course furibonde à travers Paris.
À travers Paris? Oh, je jure bien que je les rattraperai.
Et ramenez-la, hein? Monsieur le directeur, voilà un tuyau qui vaut bien celui du fantôme. Je ne sais point du tout si c'est réellement monsieur le comte de Chagny qui a enlevé Christine Daae. Et j'ai besoin de le savoir. et je ne crois point qu'à cette heure, nul mieux que le vicomte son frère ne désire me renseigner. En ce moment, il court, il vole, il est mon principal auxiliaire. Tel est, mon cher directeur, l'art que l'on croit si compliqué de la police, et qui apparaît cependant si simple dès que l'on a découvert qu'il doit consister à faire faire cette police par des gens qui n'en sont pas.
Où allez-vous si vite, monsieur de Chavigny?
Qui êtes-vous?
On m'appelle le père Sang. J'espère, monsieur de Chavigny, que vous n'avez point trahi les secrets d'Éric.
Et pourquoi donc aurais-je hésité à trahir ce monstre? Monsieur, est-il donc votre ami?
J'espère que vous n'avez rien dit, monsieur, parce que parler d'Éric, c'est parler de Christine.
Oh, monsieur, vous paraissez au courant de bien des choses qui m'intéressent, et cependant, je n'ai pas le temps de vous entendre.
Encore une fois, monsieur de Chavigny, où allez-vous si vite?
Ne le devinez-vous pas, au secours de Christine Day?
Alors, monsieur, restez ici, car elle est ici.
Avec Éric?
Avec Éric.
Et comment le savez-vous?
J'étais à la représentation, et il n'y a qu'un Éric au monde pour machiner un pareil enlèvement.
Le commissaire de police vient de me dire que Christine Day avait été enlevée par mon frère, le comte Philippe.
Oh, monsieur de Chavigny, moi je n'en crois rien.
Cela n'est pas possible, n'est-ce pas?
Je ne sais pas si cela est possible, mais il y a façon d'enlever. Et monsieur le comte Philippe, que je sache, n'a jamais travaillé dans la féerie.
Dans la féerie? Monsieur, j'ignore quelles sont vos intentions, mais pouvez-vous quelque chose pour moi? Je veux dire pour Christine Day.
Je le crois, monsieur de Chavigny. Et voilà pourquoi je vous ai abordé.
Que pouvez-vous?
Essayez de vous conduire auprès d'elle.
Comment ne vous croirais-je pas quand vous êtes le seul à ne pas sourire quand on prononce le nom d'Éric?
Silence! Disons « il », et nous aurons moins de chances d'attirer son attention.
Vous le croyez donc bien près de nous?
Tout est possible, monsieur, s'il n'est pas en ce moment avec sa victime dans la demeure du lac. Qu'est-ce que vous avez dit au commissaire?
Je lui ai dit que le voleur de Christine Day était l'ange de la musique, dit le fantôme de l'opéra, et que son véritable...
Et le commissaire vous a cru?
Non.
Il n'a point attaché à ce que vous disiez quelque importance?
Aucune.
Il vous a pris un peu pour un fou?
Oui.
Tant mieux.
Par ici.
La loge de Christine?
Tout à fait.
Monsieur, vous connaissez bien l'opéra.
Moins bien que lui. Entrez donc.
Monsieur, je pense qu'on peut très bien nous surprendre ici. Le commissaire ne saurait tarder à venir perquisitionner cette loge?
Ce n'est pas le commissaire qu'il faut craindre.
Des pistolets?
Aussitôt après l'enlèvement de Christine Day, j'ai fait prévenir mon domestique d'avoir à m'apporter ses armes, monsieur. Je les connais depuis longtemps, il n'en est point de plus sûr.
Vous voulez vous battre en duel?
C'est bien en effet à un duel que nous allons, monsieur. Et quel duel? Prenez un pistolet. Dans ce duel, nous serons deux contre un. Mais soyez prêt à tout, monsieur, car je ne vous cache pas que nous allons avoir affaire au plus terrible adversaire qu'il soit possible d'imaginer. Mais vous aimez Christine Day, n'est-ce pas?
Si je l'aime, monsieur. Mais vous, m'expliquerez-vous pourquoi vous êtes prêt à risquer votre vie pour elle? Vous haïssez certainement Éric.
Non, monsieur, je ne le hais pas. Sinon, il y a longtemps qu'il ne ferait plus de mal.
Il vous a fait du mal, à vous?
Le mal qu'il m'a fait à moi, je lui ai pardonné.
C'est tout à fait extraordinaire de vous entendre parler de cet homme. Il vous a fait du mal et je retrouve chez vous cette pitié inouïe qui me désespère tant chez Christine elle-même. Comment allons-nous le rejoindre?
Par le passage secret qui se trouve derrière le miroir. Si vous y faites bien attention, la glace se soulève de quelques millimètres et pivote afin de libérer un passage secret qu'Éric connaît bien.
Il est donc le maître de ces murs?
Il commande aux murs, aux portes, aux trappes. Chez nous en Perse, on l'appelait d'un nom qui signifie « l'amateur de trappes ».
Tout ceci me paraît bien extraordinaire. Pourquoi ces murs lui obéissent-ils à lui seul? Il ne les a pas construits.
Si, monsieur. Voyez, le miroir pivote.
La main haute, prête à tirer.
Où mène ce corridor? Vers les anciens cachots construits dans les caves durant la Commune de Paris. Suivez-moi et faites tout ce que je ferai.
Je vais ouvrir une trappe et nous allons nous laisser glisser. À vous.
C'est sombre.
Il faudra vous y habituer. Je passe devant. Suivez-moi et faites tout ce que je ferai.
Vous avez entendu?
J'ai pas l'impression que vous sachiez très bien où vous êtes, mon ami.
Bah, c'est-à-dire que je... Mauclair! 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 Le malheureux, il est mort?
Non. Il est ivre mort. Ça n'est pas la même chose.
Ivre mort, ce serait bien la première fois.
Alors on lui a fait prendre un narcotique. C'est bien possible. Regardez là, deux autres corps.
Ce sont les aides de Mauclair.
Ils dorment profondément. Très curieuse affaire. Ces hommes ont dû être endormis par leur ravisseur. Mais quelle drôle d'idée d'enlever une artiste en scène. C'est jouer la difficulté où je ne m'y connais pas. Curieuse, mais très curieuse affaire.
Ce n'est pas la première fois que Mauclair s'endort au théâtre. Je me rappelle l'avoir trouvé un soir, ronflant dans sa petite niche.
Il y a longtemps de cela?
Mon Dieu. Non, il n'y a pas bien longtemps. Tenez, c'était le soir. Ma foi, oui, c'était le soir où la Carlotta n'a pas pu finir de chanter.
Le soir où le grand lustre est tombé?
Mais oui, monsieur le commissaire.
Que dites-vous de tout ceci, monsieur Richard? Il n'y a que vous qui ne donnez point votre avis. Vous devez bien cependant avoir une petite opinion.
Le fantôme? Car enfin, il va bien falloir croire au fantôme qui parle dans la loge numéro 5, qui tue Joseph Buquet, qui décroche le lustre, qui enlève une chanteuse et qui nous vole. Il se passe ici, monsieur le commissaire, des choses que nous ne pouvons nous expliquer.
Merci du renseignement, monsieur le directeur. Allons-nous-en.
Tueur de rats.
Il y a un tueur de rats dans les sous-sols?
Oui. Il porte une sorte de bonnet brillant qui donne l'impression que sa tête est en feu. Rien à voir avec la tête de mort d'Eric. Prenons la direction du lac. Vous savez qu'il a été creusé pour maintenir l'équilibre du bâtiment et lutter contre les infiltrations. Eric a su profiter de cette particularité et s'y est construit une demeure secrète.
Quand nous serons au lac, nous donnerons l'assaut à la demeure d'Eric.
Nous n'entrerons pas dans la demeure du lac par le lac.
Pourquoi cela?
Parce que c'est là qu'il a accumulé toute sa défense et ses pièges. Moi-même, je n'ai jamais pu aborder la rive de sa maison.
Et par où peut-on entrer sans passer par le lac?
Par le troisième dessous. Entre une ferme et un décor abandonné du roi de Lahore. Exactement à l'endroit où est mort Joseph Buquet.
Le chef machiniste que l'on a trouvé pendu.
Oui, monsieur, qu'on en a trouvé pendu sans qu'on ait jamais retrouvé la corde.
Qui est-il, Eric, puisque vous semblez le connaître?
Il est originaire d'une petite ville aux environs de Rouen. C'est le fils d'un entrepreneur de maçonnerie. Il a fui de bonne heure le domicile paternel où sa laideur était un objet d'horreur et d'épouvante pour ses parents.
Ceci explique le masque.
En effet. Il est affligé d'une horrible disgrâce, qui
qui l'a mis au banc de la société et qui a modelé sa personnalité. Quelque temps, il s'est exhibé dans les foires, où son impresario le montrait comme mort-vivant. Il a dû traverser l'Europe de foire en foire et compléter son étrange éducation d'artiste et de magicien à la source même de l'art et de la magie chez les bohémiens.
Son art d'apparaître et de disparaître vient donc de là?
Et il a dépassé ses maîtres. Toute une période de l'existence d'Eric est assez obscure, mais on le retrouve plus tard à la foire de Nijni Novgorod. Déjà, il chante comme personne au monde n'a jamais chanté. Il fait le ventriloque et se livre à des jongleries et des miracles extraordinaires. C'est ainsi que sa réputation arrive jusqu'en Perse. Le daroga, le chef de la garde du chat, est alors chargé de se mettre à sa recherche. Il le ramène au palais, et pendant quelques mois, Eric fait, comme on dit en France, la pluie et le beau temps. Il commet pas mal d'horreurs, car il semble ne connaître ni le bien ni le mal, et coopère à quelques beaux assassinats politiques. Le chat le prend en amitié, et comme Eric a en architecture des idées tout à fait personnelles, le chat lui commande une construction. Eric conçoit alors un palais, tel qu'un prestidigitateur aurait imaginé un coffret à combinaison. Une construction ingénieuse, pleine d'artifices, garnie de trappes, et doté d'une salle des supplices. Mais, pour en garder le secret, la mort d'Eric est décidée, ainsi que celle de tous les ouvriers qui ont travaillé sous ses ordres. Le daroga est chargé de l'exécution de cet ordre abominable. Et comme Eric lui a rendu quelques services et l'a bien fait rire, il le sauve en lui procurant les moyens de s'enfuir.
Le daroga, c'est vous, n'est-ce pas ?
J'ai failli payer de ma tête cette faiblesse généreuse. Heureusement, j'ai trouvé sur la rive de la mer Caspienne un cadavre à moitié mangé par les oiseaux, que j'ai fait passer pour celui d'Eric. Mais j'ai dû quitter la Perse et suis venu à Paris.
Qu'est devenu Eric après sa fuite ?
Il est allé à Constantinople, se mettre un temps au service du sultan. Avant de se rendre à Paris, où, fatigué de son aventureuse et monstrueuse vie, il a souhaité devenir quelqu'un comme tout le monde. Et il s'est fait entrepreneur, comme son père. Il a participé à la reconstruction de Paris après les événements de la Commune, et c'est alors qu'il s'est fait attribuer certains travaux de fondation à l'opéra. Quand il s'est vu dans les dessous d'un aussi vaste théâtre, son naturel artiste, fantaisiste et magique a repris le dessus. Il s'est mis à rêver de se créer une demeure inconnue du reste de la terre, et qui le cacherait à jamais au regard des hommes. Vous savez ou vous devinez la suite. Si je ne me trompe, voici un mur qui pourrait bien appartenir à la demeure du lac.
Nous approchons.
Oui. Et maintenant, silence. Car nous allons essayer de pénétrer chez lui. Je distingue le décor du roi de là-haut. Silence, j'ai dit. Désolé. Nous y voilà. Il ne reste plus qu'à trouver le passage secret.
C'est-à-dire ?
Une pierre ou un élément qui doit basculer.
Je sens quelque chose.
Poussons. Ah voilà. Le passage est étroit. Il va falloir nous laisser tomber sans bruit. Aïe ! Ça va ?
Oui.
La messe de mariage.
Où sommes-nous ?
Où la messe des morts ?
Christine ?
Pas un mot. Il ignore notre présence.
Cette salle.
Vous voyez où nous sommes ? Nous sommes tombés dans la salle des supplices.
Thank you. n'est point gaie. Tandis que la messe de mariage... Oh, parlez-moi de cela. C'est magnifique. Il faut prendre une résolution et savoir ce que l'on veut. Moi, il m'est impossible de continuer à vivre comme ça. Au fond de la terre, dans un trou comme une taupe. Maintenant, je veux vivre comme tout le monde. Je veux avoir une femme comme tout le monde. Et nous irons nous promener le dimanche. J'ai inventé un masque qui me fait la figure de n'importe qui. On ne se retournera même pas. Tu seras la plus heureuse des femmes. Et nous chanterons pour nous tout seuls à en mourir. Tu pleures. Tu as peur de moi. Je ne suis pourtant pas bien méchant au fond. Aime-moi et tu verras. Si tu m'aimais, je serais doux comme un agneau. Et tu ferais de moi ce que tu voudrais. Il ne m'a manqué que d'être aimé pour être bon. Qui est-ce qui vient encore nous déranger? Je m'en vais voir ce qu'il se passe au lac. Attends-moi, Christine.
Christine! Christine! Christine, c'est moi! C'est Raoul!
Raoul?
Oui, oui, c'est moi! Ce n'est pas un rêve! Nous sommes là pour vous sauver, mais pas d'imprudence. Quand vous entendrez le monstre, avertissez-nous.
Raoul, Raoul, allez-vous-en, il va revenir. Il est devenu fou. Il est décidé à tuer tout le monde et lui-même avec le monde si je ne consens pas à devenir sa femme. Il m'a donné jusqu'à demain soir 11h pour réfléchir. C'est le dernier délai.
Je ne suis pas seul. Je suis avec un ami qui connaît bien Eric, celui qu'on appelle le Persan.
Christine, pourriez-vous nous dire où est Eric?
Il doit être sorti de la demeure. Il a parlé du lac.
Pourriez-vous vous en assurer?
Non, je suis attachée. Je ne puis faire un mouvement, mais où êtes-vous donc? Il n'y a que deux portes dans ma chambre. Une porte par où entre et sort Eric, et une autre qu'il n'a jamais ouverte devant moi et qu'il m'a défendu de franchir jamais, parce qu'elle est la plus dangereuse des portes, la porte des supplices.
Christine, nous sommes derrière cette porte-là.
Vous êtes dans la chambre des supplices?
Oui, mais nous ne voyons pas la porte. Elle doit être dissimulée.
Ah, si je pouvais seulement me traîner jusque-là! Je frapperai contre la porte et vous verriez bien l'endroit où elle est.
C'est une porte avec une serrure?
Oui, avec une serrure.
Mademoiselle, il faut absolument que vous nous ouvriez cette porte.
Mais comment?
Nous ne nous en tirerons qu'avec la ruse. Il faut avoir la clé de cette porte.
Je sais où elle est, mais je suis bien attachée.
Le misérable. Où est la clé?
Ici, à côté de l'orgue, avec une autre petite clé en bronze à laquelle il m'a défendu de toucher également. Elles sont toutes deux dans un petit sac en cuir qu'il appelle le petit sac de la vie et de la mort. Raoul, Raoul, fuyez! Tout ici est mystérieux et terrible. Eric va devenir tout à fait fou et vous êtes dans la chambre des supplices. Allez-vous-en par où vous êtes venu. Cette chambre-là doit avoir des raisons pour s'appeler d'un nom pareil.
Christine, nous sortirons d'ici ensemble ou nous mourrons ensemble.
Il ne tient qu'à nous de sortir d'ici sains et saufs. Mais il faut garder notre sang-froid. Pourquoi vous a-t-il attaché, mademoiselle? Vous ne pouvez pourtant pas vous sauver de chez lui, il le sait bien.
J'ai voulu me tuer. Le monstre, ce soir, après m'avoir transporté ici, évanoui, à demi chloroformé, s'est absenté. Quand il est revenu, il m'a trouvé la figure en sang. J'ai voulu me tuer, je m'étais frappé la tête contre le mur.
Christy!
Alors il m'a attaché. Je n'ai le droit de mourir que demain soir à 11h.
Mademoiselle! C'est le monstre qui vous a attaché, c'est lui-même qui vous détachera. Il ne s'agit que de jouer la comédie qu'il faut pour cela. N'oubliez pas qu'il vous aime.
Comment ferais-je pour l'oublier?
Souvenez-vous-en pour lui sourire. Suppliez-le, dites-lui que ses liens vous blessent.
Chut, j'entends quelque chose. C'est lui, allez-vous-en, allez-vous-en.
Même si nous le voulions, nous ne pourrions plus partir. Et nous sommes dans la chambre des supplices.
Silence!
Oh.
Je te demande pardon de te montrer un visage pareil. Je suis dans un bel état, n'est-ce pas? C'est de la faute de l'autre. Pourquoi a-t-il sonné? Mais il ne sonnera plus, c'est certain.
Eric, desserrez mes liens.
Non.
Ne suis-je pas votre prisonnière?
Tu voudras encore mourir.
Vous m'avez donné jusqu'à demain soir, 11h, Eric.
Après tout, puisque nous devons mourir ensemble, et que je suis aussi pressé que toi, oui, moi aussi j'en ai assez de cette vie, tu comprends? Tu n'as qu'un mot à dire, non, et ce sera fini tout de suite, pour tout le monde. Tu as raison, tu as raison. Pourquoi attendre jusqu'à demain soir, 11h? Ah oui, parce que ça aurait été plus beau. J'ai toujours eu la maladie du décorum, du grandiose. C'est enfantin. Il ne faut songer qu'à soi dans la vie. À sa propre mort, le reste est du superflu. À part ça, Christine, je crois bien que j'ai des hallucinations. J'ai cru reconnaître celui qui a fait sonner l'alarme. Attends, ne bouge pas. Je vais te délivrer. Là, tourne-toi. Es-tu contente? Mon Dieu. Tes poignets, Christine. Je l'aurais fait mal, dis. Cela seul mérite la mort. À propos de mort, il faut que je lui chante sa messe à celui qui a sonné. Qu'est-ce que tu as fait de mon sac? Qu'est-ce que tu as fait de mon sac? C'était pour me prendre mon sac que tu voulais que je te délivre, dis. Tu ne sais donc pas que c'est le sac de la vie et de la mort.
Écoutez-moi, Eric. Puisque désormais il est entendu que nous devons vivre ensemble, qu'est-ce que ça vous fait? Tout ce qui est à vous m'appartient.
Tu sais bien qu'il n'y a là-dedans que deux clés. Qu'est-ce que tu voulais faire?
Je voudrais visiter cette chambre que je ne connais pas et que vous m'avez toujours cachée. C'est une curiosité de femme.
Je n'aime pas les femmes curieuses. Et vous devriez vous méfier depuis l'histoire de Barbe Bleue. Allons, rendez-moi mon sac. Rendez-moi mon sac. Veux-tu laisser la clé, petite curieuse?
Aïe, vous me faites mal!
Qu'est-ce que c'est que ça? Tu n'as pas entendu, Christine?
Non, je n'ai rien entendu.
Il me semblait qu'on avait crié.
Crié? Est-ce que vous devenez fou, Eric? Qui voulez-vous donc qui crie au fond de cette demeure? C'est moi qui ai crié parce que vous me faisiez mal. Moi, je n'ai rien entendu.
Comme tu me dis cela, tu trembles. Te voilà bien ému. Tu mens. On a crié. Il y a quelqu'un dans la chambre des supplices. Ah, mais je comprends maintenant.
Il n'y a personne, Eric.
Je comprends.
Personne.
Ton fiancé, peut-être.
Je n'ai pas de fiancé, vous le savez bien.
Du reste, c'est si facile de le savoir. Ma petite Christine. Mon amour. Je n'ai pas besoin d'ouvrir la porte pour voir ce qui se passe dans la chambre des supplices. Veux-tu voir? Il suffit de tirer le rideau noir de la fenêtre près du plafond tout là-haut. Éteignons. Tu n'as pas peur de la nuit, en compagnie de ton petit mari?
Non. Cette chambre ne m'intéresse plus du tout. C'est vous qui me faites tout le temps peur comme à une enfant avec cette chambre des supplices. Alors j'ai été curieuse, c'est vrai, mais elle ne m'intéresse plus du tout.
Mais elle ne m'intéresse plus du tout. Je savais bien qu'il y avait quelqu'un. Là, vois-tu maintenant la fenêtre lumineuse? Celui qui est derrière ce mur ne la voit pas, lui. Tu m'as demandé souvent à quoi servait cette échelle. Te voilà renseignée. Elle sert à regarder par la fenêtre de la chambre des supplices.
Quel supplice? Quel supplice y a-t-il là-dedans, Eric? Eric, dites-moi que vous voulez me faire peur. Dites-le-moi si vous m'aimez, Eric. N'est-ce pas qu'il n'y a pas de supplice? Ce sont des histoires pour les enfants.
Tu as raison. Pas de supplice. Je te l'accorde.
Que faites-vous?
Une simple précaution.
Oh mon Dieu!
se passe quelque chose. La température monte rapidement. Une forêt. Nous sommes dans une forêt. Une forêt d'Afrique. Un jeu d'illusion. Les arbres, les branches, je peux presque les toucher.
Surtout pas. C'est la mort assurée.
Je crois devenir fou.
Attention à vous. Ne touchez pas les parois. Ne touchez pas les branches. Restez au centre de la pièce. Ce ne sont que des illusions et des pièges.
J'ai soif.
Ce bruit. Cette odeur. C'est du gaz. Raoul.
Monsieur de Chagny. Monsieur de Chagny.
Adieu, Christine.
Réveillez-vous.
Quoi ? Nous sommes morts ?
Pas encore. Eric a sans doute prévu autre chose.
Où sommes-nous ?
Toujours dans la chambre des supplices. Nous avons dormi longtemps. Le gaz, c'était du chloroforme. Comme pour Mauclair et ses aides.
Vous êtes réveillé depuis longtemps ?
Assez longtemps pour avoir découvert une ouverture. Il y a une trappe dans le sol. Venez m'aider.
Que dois-je faire?
Faites pression sur le coin pendant que je tente de soulever le coin opposé.
Comme ça?
Ah, c'est parfait. Voilà. Un peu plus fort. Encore. Encore. Ah, bravo. Vous sentez?
De l'air frais.
Il y a peut-être une issue. Descendons.
Et Christine ?
Il faut nous sauver pour la sauver. C'est une sorte de cave.
Que voyez-vous ?
C'est très sombre. Des formes rondes.
Vraiment ? Laissez-moi voir.
Vous avez raison.
Ce sont des tonneaux. Des tonneaux. Que des tonneaux.
De l'eau ou du vin, j'espère. Je meurs de soif. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ce n'est pas de l'eau ?
Non. C'est de la poudre. Des tonneaux remplis de poudre à canon. Il veut détruire l'opéra de Paris. Souvenez-vous, demain soir à 11h, dernier délai. Demain soir, 11h, l'opéra doit sauter en pleine représentation. Et nous avec, si Christine Daae lui dit non. Demain soir, 11h, quelle heure est-il ?
Je ne vois pas le cadran de ma montre.
Il faut donc remonter. Quelle heure voyez-vous ?
Impossible à dire. Ma montre s'est arrêtée. Cela signifie que nous avons dormi peut-être 12 heures. Peut-être plus.
Il faut savoir. Il faut appeler.
Christine ! Christine !
Eric ! Eric, si tu m'entends, souviens-toi que je t'ai sauvé la vie !
Christine !
Il m'a semblé entendre quelque chose dans la pièce à côté. Je ne me suis pas trompé.
Raoul ! Raoul !
Ici ! Nous sommes ici ! Vous n'avez rien, Christine ?
Le monstre a été terrible ! Il n'a fait que délirer en attendant que je prononce le oui que je lui refusais. Enfin, après des heures et des heures de cet enfer, il vient de sortir à l'instant, me laissant seule pour réfléchir une dernière fois.
Quelle heure est-il ? Quelle heure est-il, Christine ?
Il est 11 heures. 11h05.
Mais quelle 11h?
Les 11h qui doivent décider de la vie ou de la mort. Il vient de me le redire en partant. Il délire et il a arraché son masque et ses yeux d'or lancent des flammes. Il n'a fait que rire. Il m'a dit en riant comme un démon qu'il me laissait 5 minutes. Il m'a donné une petite clé en bronze qui ouvre le coffre d'ébène qui est sur la cheminée. Dedans s'y trouve un scorpion et une sauterelle en bronze. Si je tourne le scorpion, je dis oui. Si je tourne la sauterelle, je dis non. Il m'a crié, la sauterelle! Prends garde à la sauterelle! Ça ne tourne pas seulement une sauterelle, ça saute! Ça saute joliment!
Si je comprends bien, on tourne la sauterelle saute, et avec elle, l'opéra. Point de doute que la sauterelle commande quelques courants électriques destinés à faire sauter la poudrière.
Christine! Eric veut faire sauter l'opéra! Il a placé des tonneaux de poudre dans les fondations! Il faut tourner le scorpion, tout de suite!
Et lui dire oui!
Avons-nous le choix?
Christine, où êtes-vous?
Auprès du scorpion!
N'y touchez pas!
Je ne comprends pas!
Je connais Eric. Il peut vous avoir trompé. C'est peut-être le scorpion qui va tout faire sauter. Car enfin, pourquoi n'est-il pas là, lui? Les 5 minutes se sont écoulées et il n'est pas revenu. Et il s'est sans doute mis à l'abri. Et il attend peut-être l'explosion formidable. Il n'attend plus que ça. Ne touchez pas au scorpion. Tournez la sauterelle!
Allons, Christine. Il est temps de vous décider.
Eric, c'est moi. Me reconnais-tu?
Vous n'êtes donc pas endormi là-dedans? Eh bien, tâchez de vous tenir tranquille. Plus un mot ou je fais tout sauter. L'honneur doit en revenir à mademoiselle. Mademoiselle n'a pas touché au scorpion. Mademoiselle n'a pas touché à la sauterelle. Mais il n'est pas trop tard pour bien faire. Si vous ne tournez pas le scorpion, moi, je tourne la sauterelle. Et la sauterelle, ça saute joliment bien.
Eric, me jures-tu sur ton infernal amour que c'est le scorpion qu'il faut tourner?
Oui, pour sauter.
Ah, tu vois bien, nous allons sauter.
À nos noces, innocente enfant, le scorpion ouvre le bal. Mais en voilà assez. Tu ne veux pas du scorpion? À moi la sauterelle. Saute, sauterelle.
Eric.
Assez.
Eric. J'ai tourné le scorpion.
Elle a tourné le scorpion?
Rien. Pas d'explosion.
Ce grondement. Ce bruit.
Ça n'est pas du feu. Regardez, c'est de l'eau. De l'eau qui va remplir la cave pour noyer la poudre.
L'eau du lac s'infiltre partout, à grande vitesse. Nous en avons déjà aux genoux.
Si l'eau du lac entre ici, nous allons finir noyés. Il faut qu'Eric ferme le robinet.
Eric! Eric, il y a assez d'eau pour la poudre. Tourne le robinet! Ferme le scorpion!
Christine! Christine! L'eau monte! L'eau monte jusqu'à nos hanches!
Eric! Eric!
Christine! Christine!
Rien. Rien dans la chambre à côté. Plus personne. Personne pour tourner le robinet. Personne pour fermer le scorpion. Il faut se résigner.
Pourquoi?
Nous allons être emportés par le courant jusque dans la cave où il n'y a pas d'issue pour nous. C'est dans ça le sort que nous réservait Eric. Le feu ou l'eau, nous étions condamnés, quoi qu'il arrive.
Christine.
Eric.
Ça va mieux, Daroga? Tu as dormi longtemps, très longtemps. Tu regardes mon mobilier.
C'est tout ce qui me reste de ma pauvre mère.
Où est Raoul? Où est Christine Daae?
Je vais mourir.
Raoul de Chagny et Christine Daae?
D'amour, Daroga. C'est comme cela. Je l'aimais tant. Si tu savais comme elle était belle quand elle m'a permis de l'embrasser vivante. C'était la première fois, Daroga. La première fois, tu entends, que j'embrassais une femme. Oui, vivante. Je l'ai embrassée vivante et elle était belle comme une morte.
Me diras-tu enfin si elle est morte ou vivante?
Non. Non. C'est le comte Philippe qui est mort. C'était un accident. Un triste, un lamentablement triste accident. Il n'aurait pas dû venir aider son frère. Un piège qui s'est déclenché. C'était pour lui, le dit Assiré. Oui. Je l'ai embrassée vivante.
Et maintenant elle est morte?
Non. Non, elle n'est pas morte. C'est une brave et honnête fille qui t'a sauvé la vie par-dessus le marché d'Aroga. Dans un moment où je n'aurais pas donné deux sous de ta peau de persan. Au fond, personne ne s'occupait de toi. Pourquoi étais-tu là avec ce petit jeune homme? Tu allais mourir par-dessus le marché. Seulement, écoute bien, Daroga, comme vous criez comme des possédés à cause de l'eau, Christine est venue à moi. Ses beaux, grands yeux bleus, ouverts, et elle m'a juré, sur son salut éternel, qu'elle consentait à être ma femme vivante. Elle ne se tuerait point. Marché conclu. Une demi-heure plus tard, toutes les eaux étaient retournées au lac. Et tu étais sauvé, Daroga. Et je suis revenu auprès de Christine. Elle m'attendait. Elle m'attendait toute droite, vivante, comme une vraie fiancée vivante. Et quand je me suis avancé, plus timide qu'un petit enfant, elle ne s'est point sauvée, non. Non, elle est restée. Et je crois bien même, Daroga, qu'elle a un peu, oh, tendu son front. Et je l'ai embrassée. Moi. Moi. Et elle n'est pas morte. Ah, que c'est bon, Daroga, d'embrasser quelqu'un. Tu ne peux pas savoir, toi. Mais moi, ma pauvre, misérable mère n'a jamais voulu que je l'embrasse. Et elle se sauvait en me jetant mon masque. Ni aucune femme. Jamais. Jamais. J'ai pleuré. Et toi aussi, tu pleures, Daroga. Et elle aussi pleurait. Elle est restée vivante à pleurer sur moi, avec moi. Et elle a dit, pauvre, malheureux Eric. Et elle a pris ma main. Moi, je n'ai plus été, tu comprends, qu'un pauvre chien prêt à mourir pour elle, comme je te le dis, Daroga. Figure-toi que j'avais dans la main un anneau d'or que je lui avais donné et qu'elle avait perdu et que j'ai retrouvé, une alliance. Je le lui ai glissé dans sa petite main, je lui ai dit, tiens, prends ça pour toi et pour lui. Ce sera mon cadeau de noces, le cadeau du pauvre malheureux Eric. Je sais que tu l'aimes, le jeune homme. Ne pleure plus. Elle m'a demandé d'une voix bien douce ce que je voulais dire, et elle a compris qu'elle pourrait se marier avec le jeune homme quand elle voudrait, parce qu'elle avait pleuré avec moi. Daroga?
Oui.
Daroga, il faut me promettre quelque chose.
Oui.
Daroga, la vie me quitte. Promets-moi d'annoncer que je suis mort, que le fantôme de l'opéra est mort.
Eric,
promets-le-moi, Daroga. Je meurs. Je meurs, mais je meurs d'amour.
Eric.
Mon Dieu.
Que se passe-t-il?
Eric.
Eric est mort. Son cœur a lâché.
Pauvre, malheureux Eric.
C'était Le fantôme de l'opéra de Gaston Leroux. Adaptation Laurent Martin, seconde et dernière partie. Avec Richard Firmin, Hervé Furic, le vicomte Raoul de Chagny, Thomas Rorté, Christine Daae, Eva Gentili, Éric le fantôme, Pierre-Benoît Varroclier, Rémi le secrétaire, Pierre Rochefort, Madame Giry, Marie-Bénédicte Roy, Mercier l'administrateur, Antoine Gouy, le commissaire Mifroid, Olivier Claverie, le persan, Laurent Lederer, le régisseur, Théo Combi-Lemaître, et Clara Noël, Alizé Soudé, Yvon Martin, Alice Gosselin, Louis Astier, Alexandra Flandrin, Maxime Pambé, Marina Moncade, Gérald Maillet, Mélissa Irma, Donatien Guillot, Julien Aluguette, Simon Peretti, Swat Timimi, Julia Dusselier, Jean Eustache, Dominique Bettenfeld, Mathilde Martinage, Michel Baladi. Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Caroline Wazana. Équipe de réalisation, Samuel Razzano, Antoine Espel, Olivier Dupré, Roman Chiban, Jean-Mathieu Zante.